Pour l'anniversaire de leur pays, les Émirats Arabes Unis ont vu les choses en grand. Ils se sont offerts un voyage vers Mars en plaçant mardi sur orbite une sonde nommée Espoir.
Au peuple des Émirats, aux nations arabes et musulmanes, nous annonçons notre entrée réussie en orbite autour de Mars. Dieu soit loué.
Et ces jours-ci, ça se bouscule aux abords de la planète rouge. Hier, après plus de 6 mois de trajet, une sonde chinoise est arrivée sur zone.
La mise en orbite est un succès, mais ce n'est que le début. Nous allons poursuivre avec l'envoi d'un robot téléguidé.
Attention aux embouteillages, car jeudi prochain, le robot américain Perseverance devrait se poser sur le sol martien. Une ruée vers Mars qui relance la conquête spatiale. Jusqu'à présent, les États-Unis faisaient figure de maître du jeu. En 1989, 20 ans après la mission Apollo 11 et les premiers pas de l'homme sur la Lune, le président Bush annonçait une nouvelle étape dans l'exploration spatiale.
Un voyage dans le futur, un voyage vers une autre planète, une mission habitée sur Mars.
Il avait même à l'époque fixé une date, avant le 20 juillet 2019. C'est peut-être un entrepreneur privé qui réalisera ce rêve. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, compte bien coloniser la planète Mars.
L'histoire prévoit qu'il y ait un jour ou l'autre une fin du monde. Une des alternatives est de devenir une civilisation qui voyage dans l'espace. Une espèce qui vit sur d'autres planètes. Ce qui est, j'espère que vous êtes d'accord, la bonne chose à faire.
Alors, science-fiction ou réalité, l'homme marchera-t-il un jour sur Mars? Pourra-t-on y habiter? Pourquoi la planète rouge nous attire-t-elle autant?
Pourquoi, en seulement 10 jours, 3 sondes de pays différents arrivent-elles dans l'orbite de Mars, François Forget? Pourquoi est-ce qu'on a cette impression d'embouteillage sur la ligne d'arrivée, en effet?
Oui, c'est parce qu'on ne peut pas envoyer des sondes vers Mars tout le temps.
Ouais, il y a une fenêtre de tir.
Il y a une fenêtre de tir. En fait, faut savoir qu'on donc Mars et la Terre tournent autour du Soleil. Et puis, de temps en temps, la Terre passe près de Mars. Okay. Chacun tourne à sa vitesse. Mmh. On est passé le poulpe de Mars au mois d'octobre. Donc, on a lancé les fusées un petit peu avant. Aïe. Donc au mois de juillet, et puis elles viennent d'arriver, les sondes arrivent en ce moment, en début février, donc ça prend un peu plus de 6 mois pour faire ce voyage. Mais on a l'impression qu'il y a un embouteillage, mais en fait, tous les 26 mois, il y a au moins une sonde qui arrive, parfois deux, parfois trois, comme
cette année. On ne part pas de zéro, il y en a régulièrement.
Oui. Non, actuellement, avant même que les sondes de ce mois-ci arrivent, on avait en fonctionnement, je ne parle pas de celles qui sont tombées en panne, 6 satellites d'observation en fonctionnement.
Donc qui tournent autour, qui satellisent autour de
absolument,
Mars.
Et puis deux stations, enfin un rover, un robot à roulettes, et puis une station géophysique qui fonctionne. Donc 8 engins qui travaillaient déjà sur Mars, et là, on arrive avec 3 de plus. Donc non, Mars, c'est pas... on fait de l'exploration, mais on part pas de zéro.
D'accord.
Alors, vous avez dit qu'il faut à peu près 7 mois pour rejoindre la planète Mars, en partant de la Terre. Quelle distance, c'est le chiffre du jour?
55 millions, hein, c'est le chiffre du jour. 55 millions de kilomètres séparaient Mars de la Terre lors du lancement en janvier de 2020 de ces 3 missions spatiales. Isabelle Sourbès-Verger, dans ces 3 missions, il y a les Émirats Arabes Unis. Comment une nation qui n'était pas connue pour son expertise spatiale se retrouve capable d'envoyer une sonde autour de Mars?
Alors en fait, elle n'a pas envoyé la sonde, elle a fait envoyer la sonde. Donc ça, je crois que c'est vraiment la subtilité de la mission émiratie. C'est qu'en réalité, ce n'est pas une puissance spatiale. C'est-à-dire qu'elle a travaillé en coopération avec des scientifiques du monde entier, et en particulier avec des laboratoires américains qui travaillent sur le climat martien. Mais on travaille aussi en France sur le climat martien. Et elle a fait lancer sa sonde par un lanceur japonais. Et cette sonde a été en partie assemblée aussi aux États-Unis. Donc là, ce qui est intéressant pour nous, c'est que pour la première fois, vous avez un pays qui choisit de faire sa publicité dans le domaine scientifique et d'acquérir aussi ses lettres de noblesse dans le domaine scientifique.
C'est du soft power, en quelque sorte.
Oui, via le spatial. Et je pense d'ailleurs que ça a donné des idées, puisqu'on a vu le président Erdogan en Turquie, il y a 2 jours, je crois, d'un seul coup, rappeler les ambitions spatiales de la Turquie. Et ça, c'est original. Sinon, la Chine et les autres pays sont des puissances spatiales. Vous avez aussi l'Inde qui a mis beaucoup plus longtemps pour aller sur Mars parce qu'elle utilisait un plus petit lanceur qui est aussi une puissance spatiale martienne.
Vous, d'autres lignées?
Oui, c'est un petit peu plus subtil que ça. C'est-à-dire que les Émiratis ont été très astucieux. Non, je veux dire simplement, c'est vrai qu'on pourrait se dire, puis on s'attend parfois de ça des pays du Golfe, on pourrait se dire, ils ont payé une entreprise, par exemple, une industrie spatiale pour construire leur satellite. Ils n'ont pas tout à fait ça.
Vous le savez parce que vous y avez donc participé. Qu'est-ce que vous faisiez dans la mission?
Alors moi, je suis scientifique plutôt spécialisé dans les sciences de l'atmosphère, donc je participe un peu à tout. Je fournis des modèles numériques, je ne vais pas vous raconter les détails. Je n'ai pas, avec mon tournevis, construit la caméra. Hein. Mais par contre, donc, les Émiratis, ils auraient pu payer une société industrielle comme Boeing ou Lockheed Martin.
Faire de la sous-traitance pure.
Ouais, mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas souhaité acheter, ils revendiquent ça, et ce n'est pas faux. Ils ont souhaité, bien sûr, ne pas partir de zéro, se faire accompagner. Donc ils sont associés à des universités américaines qui elles-mêmes n'ont jamais envoyé de fusée sur Mars. L'Université du Colorado, etc. Ils sont associés. Ils ont mis beaucoup d'ingénieurs qui se sont formés en faisant tout ça, qui ont beaucoup contribué. Donc c'est pas tout à fait on achète des mercenaires et on... Non. Il y a une vraie équipe qui a beaucoup appris et par contre qui a astucieusement, qui n'est pas partie de zéro en s'associant à des universités. Donc c'est assez rusé de leur part quand même. C'est bien, ils ont été assez pragmatiques et c'est une belle réussite.
Ça c'est pour les Émiratis. Alors il y a la sonde chinoise qui va essayer quelque chose qui est une performance inouïe, qui est de se poser au mois de mai. Ouais. En quoi est-ce que vous pouvez décrire cette performance? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour se poser?
Ce qui est assez extraordinaire, moi je dirais, chez les Chinois, c'est qu'en une mission, ils veulent tout faire. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'ils approchent de Mars, donc ils vont faire l'orbiteur, comme tout le monde. Ils vont poser un atterrisseur et ensuite ils ont un rover. Et moi je pense que ça signifie quand même une certaine forme de confiance en soi, à la fois technologique, parce qu'il y a quand même des chances d'échec. En gros, sur Mars, c'est 1 sur 2.
Vous évaluez combien c'est 1 sur 2?
Oui, c'est à peu près sur Mars, si on prend l'ensemble des missions martiennes depuis le début de l'histoire de l'exploration martienne, on a quand même beaucoup, beaucoup d'échecs, en particulier les Soviétiques ont accumulé beaucoup d'échecs. Donc là, je pense que les Chinois, effectivement, ils veulent tenter une mission qui va tout de suite les crédibiliser beaucoup. S'ils échouent, c'est pas très grave parce qu'il y en a plein d'autres qui ont échoué avant. Et en même temps, je pense qu'ils ont aussi maintenant une certaine confiance en eux qui font qu'ils peuvent se permettre d'accepter l'échec. Et ça, c'est aussi une preuve de maturité. Et c'est une jolie mission, c'est une jolie mission scientifique qu'ils ont prévue. Vous voulez peut-être compléter sur le contenu de la mission?
Alors oui, c'est vraiment une mission très ambitieuse. Ils ne partent pas de zéro pour le coup. Alors là, eux, ils ont un vrai programme spatial avec des industries. Là, on ne peut pas comparer, effectivement. Et ils ne partent pas de zéro parce qu'ils ont déjà fait des missions assez spectaculaires sur la Lune, avec des atterrisseurs, des rovers. J'ai eu la chance de collaborer avec les Chinois. Alors, pas comme chercheur.
C'est vous le personnel, alors.
Non. Pas comme chercheur, comme spécialiste. Alors, je travaille avec eux comme spécialiste pour les problèmes d'atterrissage, justement, puisque sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Moi, je m'occupe pas mal de l'atmosphère. Donc, j'ai pu héberger des ingénieurs chinois sur ce projet-là aussi. Et on voyait bien que c'est vraiment l'équipe qui s'occupait des missions sur la Lune. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils ont mis un atterrisseur de la face cachée de la Lune. Ils ont ramené des échantillons juste là, il y a quelques semaines, de la Lune. Donc, c'est des grosses missions, ça, avec des grosses fusées. Et donc, là, c'en a une de plus. Ouais, c'est très spectaculaire, très ambitieux. On va voir ce qui. Alors après, c'est un peu secret. Ils ont une vraie culture. Par exemple, je n'arrivais pas à savoir quand est-ce qu'ils font la mise en orbite. Là, c'était donc le 10. La mise en orbite, c'est quand on allume les moteurs pour freiner et être capturé par la gravité de la planète.
Pourquoi est-ce qu'ils le cachent? Pourquoi cette discrétion?
En fait, ils sont un peu en mode. Vous savez, c'est la communication à l'ancienne. On veut être sûr que ça marche avant de pouvoir communiquer. Ça se fait plus trop comme ça, mais enfin, eux, ils font ça comme ça.
Donc, on va récolter des échantillons qu'on va stocker, vous allez nous dire comment, et puis que d'autres vont aller récupérer, c'est ça?
C'est pas d'autres, c'est les Américains eux-mêmes qui
vont les récupérer sur une mission ultérieure.
Et ça donne bien la mesure des difficultés qu'il va y avoir à imaginer une base martienne avec des hommes, par exemple. Parce que là, on se rend bien compte que la NASA, pour lequel le programme martien, il a commencé de façon effective dans le milieu des années 70. Ils ont fait les premières missions après la Lune, comme les Chinois. Et là, ils commencent à avoir une expérience qui est tout à fait impressionnante. Dans leur prochaine mission, ils ont même un petit hélicoptère... Qui va survoler. Donc, ils ont vraiment des ambitions très complètes avec créer des sources d'énergie sur Mars, ramener des échantillons, envisager de voir comment on peut créer un minuscule biotope, etc., etc. Et tout ça sur une très longue durée. Et c'est ça qui est très impressionnant sur ces missions martiennes. Von Braun, quand il parlait de l'exploration de l'espace avant même le premier satellite, je ne sais plus en quelle date il voyait les Américains, enfin les hommes sur Mars, mais si ça tombe, c'était 1980. Je dis peut-être une bêtise. Mais enfin, en tout cas, c'était quelque chose qui lui paraissait assez proche. Et là, on se rend bien compte que Mars est compliqué et c'est long et c'est coûteux.
Et on voit bien les ambitions scientifiques. François Forget, il y a une bataille géopolitique et diplomatique aussi entre ces différentes puissances.
Alors, Je ne dirais pas bataille. Alors, au niveau scientifique, pas du tout. Comme vous le savez sans doute, les chercheurs, on a vraiment toujours une impression de collaborer. Et puis ensuite, au niveau dessus, la bataille, ce n'est pas très marqué. On pourrait la noter, c'est vrai, dans les relations entre la Chine et les États-Unis.
Et là, à l'époque, entre l'URSS et les États-Unis.
Évidemment, voilà. Évidemment. Mais pour vous donner un autre exemple, on mentionnait à l'instant la mission de retour d'échantillons martiens, donc qui sera la suite. Persévérance va préparer l'échantillon, va les mettre dans des petites boîtes de conserve et puis va les stocker à la surface. Et ensuite, cette seconde mission qui viendra, elle sera avec une forte composante européenne. Mmh. En fait, on va atterrir, ça sera un truc américain. Le petit rover qui va aller chercher, ce sera européen. On redécolle et l'engin spatial qui repartira sur Terre, ce sera aussi européen. Mmh. Donc c'est une collaboration. Il y en a tout le temps des collaborations. Mmh. À tous les niveaux. Vous connaissez tous la Station Spatiale Internationale et elle est avec les Russes et les Américains, etc.
Mais est-ce qu'on partage une vraie notion. Est-ce qu'on partage tout? Vous parliez des Chinois qui étaient discrets et taiseux sur certains...
Non, alors les Chinois sont un peu à part, et je dois avouer que quand vous êtes américain, vous n'avez pas trop le droit de collaborer avec les Chinois actuellement. Là, il y a une petite guéguerre, c'est vrai,
quand même.
Au niveau spatial, ça c'est vrai. Mais ça c'est les Chinois qui sont un peu à part, encore une fois. Mmh. Les autres nations collaborent énormément au niveau spatial, et puis donc on pas. Mais par contre, c'est vrai que même moi, dans certains domaines techniques américains, je dois sortir de la salle.
C'est vrai.
Oui.
Et ce n'est pas les Chinois qui sont à part, c'est les Américains qui mettent les Chinois à part.
Oui.
Et cette idée qu'il y a une course géopolitique, c'est vraiment une idée américaine parce que ça leur permet de réactiver tous les réflexes qu'ont fait Apollo. Oui. Et qu'en plus, il y a quand même des concurrences sur Terre importantes avec les Chinois. Mais ça, c'est vraiment important de mesurer ça parce que les Chinois, ils rêveraient en fait d'être associés à des coopérations avec les Américains parce que ça serait une reconnaissance, ça serait une normalisation. Et ça les aiderait parfois sur certains domaines. Mais
Roger, quelle place pour l'Europe entre la Chine et les États-Unis dans cette conquête vers Mars?
Alors, elle est là, elle existe. Oui. Il y a pas mal d'activités. On a deux satellites en fonctionnement autour de Mars maintenant, qui font de la très bonne science. Et puis, on
ne va plutôt... pas chercher à poser un robot, nous.
Si, on l'a cherché, on a raté.
On a raté.
Mais on a un gros projet en 2022 qu'on fait en association avec les Russes.
ExoMars,
avec le rover qui s'appelle Rosalind Franklin, un super projet. Donc, c'est la fenêtre suivante en 2022. Et donc, c'est un projet européen de longue date qui sera extrêmement ambitieux. On va forer la surface et analyser les échantillons, ça va être formidable. Et puis, à plus long terme, j'ai mentionné cette participation importante dans quelque chose qui nous paraît, nous, scientifiques européens, très intéressant, c'est l'analyse des échantillons de Mars qu'on va ramener sur Terre. Et puis, à plus long terme, pour l'exploration humaine. Alors l'exploration humaine répond à plein d'autres logiques, mais il y a une forte implication. Par exemple, ça commence d'abord par une première étape avant la construction d'une petite station en orbite autour de la Lune. On veut s'entraîner là. Et là, il y a une forte participation européenne. Autre exemple, vous savez que la future capsule qui remplace un peu Apollo, qui s'appelle Orion, qui va permettre d'accéder à l'espace lointain, peut-être un jour via des trucs à Mars, eh bien, le module de service, donc une partie technique qui fait quand même la moitié, c'est fourni par l'Europe.
Et ben voilà.
On rejoue un rôle plutôt avec nos collaborations avec la NASA, bien sûr.
Et rappelons Rosetta, surtout.
Oh ben, je peux vous rappeler.
En 2016.
Si vous faites la liste des missions spatiales européennes, ça va être magnifique.
On n'aura pas le temps, parce qu'on va évoquer une simulation sur Mars.
C'est un autre projet d'envergure émirati, une cité martienne en plein désert, pour le dire très vite. Ouais, ça avait été annoncé en 2017 lors du World Government Summit. C'est un raout annuel qui se déroule à Dubaï. Un projet qui voit très loin. Il s'appelle Mars 2117. Donc dans un siècle, l'objectif, c'est de simuler la vie sur Mars et surtout de développer la technologie nécessaire pour coloniser la planète dans un prototype qui est bâti ici sur Terre. Dubaï investit des sommes colossales, plus de 120 millions d'euros. Le célèbre et très cher architecte danois Bjarke Ingels a été embauché. Il va imaginer et peut-être construire cet espace. Le lieu n'existe pas, on a des images de synthèse tout de même, il a déjà un nom, il s'appelle donc Mars Science City. C'est une ville qui va être équipée de laboratoires où seront menés des essais scientifiques et agricoles pour créer de l'eau, de la nourriture, de l'énergie sur Mars. Et puis les chercheurs comptent également mener une très grande expérience en confinant pendant un an un groupe de plusieurs personnes pour simuler donc une future communauté de colons. Ce qui est intéressant, c'est ce que dit Omran Sharaf, le chef de projet de la mission Hope. Je le cite, la technologie acquise dans cette cité scientifique va permettre de faire face aux défis que nous avons sur Terre. Isabelle Surbès-Verger, est-ce que, en effet, ces recherches, c'est à très long terme, on l'a bien compris, elles vont avoir des effets sur notre vie, à nous, de terriens, d'ici 2117? C'est l'ambition affichée?
Oui, c'est l'ambition affichée. Alors après, moi, je suis toujours un petit peu surprise quand, effectivement, on vous dit qu'il faut voir comment on va faire sur Mars pour savoir comment résoudre des problèmes sur Terre. On peut peut-être se poser la question à l'envers et voir comment on résout les problèmes sur Terre. Et...